du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Coq à l'âne numéro 601 au relais d'Alsace avec autour de la table Rémi Chouissa, Philippe Stockley, notre invité Rémi Grisca qui est avec nous.
Rémi,
pas encore.
Oh pardon, qu'est-ce que je dis Rémi? Pourquoi j'ai dit Rémi?
Parce que moi, c'est Rémi.
Ah, pardon, excuse-moi.
Romain Chouissa.
Romain Chouissa et Rémi Grisca. Non,
et Thierry Stockley.
Et Thierry Stockley.
Philippe Masselis.
Philippe Masselis. Tu sais que mon frère s'appelle Philippe, t'en fous.
Oh, t'en fous.
Alors, nous sommes avec Romain, donc. Oui, je voulais revenir un petit peu, histoire de détendre l'atmosphère, sur ce qui s'est passé avec Mélenchon, qui, on parlait qu'il avait eu un peu de mal avec son image. Alors, évidemment, on a vu le contraire, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui trouvent que ce qu'il a dit était très bien et qu'il avait eu raison de le faire, etc. Bon, moi, avant de vous faire écouter ceux qui sont d'accord, je vous ai fait un petit montage histoire de rigoler un petit peu, deux minutes. Voici donc Mélenchon dans sa colère.
Personne ne me touche. Ma personne est sacrée.
Je vois que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate.
La République, c'est moi.
C'est même dramatique d'être obligé de travailler pour un pari ballot.
Quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Ma personne est sacrée.
Je peux plus supporter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ses bonnes manières, son sourire, sa culture, sa façon mielleuse qu'il a de s'exprimer. Je peux plus voir en peinture.
Effectivement, c'est l'overdose.
Il faut qu'il parte. Je vais tomber malade.
Vous ne me touchez pas!
Ne me touchez pas!
La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Touchez-vous de là ou à moi, cette porte!
Ah, fous-nous la paix maintenant! Ça suffit, non?
Tu rentres chez toi, tu prends une tisane. Et au dodo, hein.
Voilà, c'était histoire. Voilà, mais j'aime bien de temps en temps faire des petites bêtises comme ça avec Mélenchon. Bon, alors évidemment, là, c'était pour rigoler, mais les supporters de Mélenchon,
il y en a.
Eh oui, il y en a beaucoup, et notamment ceux qui étaient du côté de Lille, donc pour un meeting qu'il a donné il y a quelque temps, et qui étaient tout à fait d'accord avec ce qui s'était passé et la manière dont il avait réagi. Écoutez.
La réaction, moi j'aurais été à sa place, j'aurais eu même cette même colère.
C'était tout à fait normal, c'est de la colère, c'est humain quoi.
J'ai vu la vidéo chez lui là, avant, tout s'était passé calmement. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Après, arrivé au local, c'est les circonstances qui ont fait que il est sanguin, il s'est énervé.
Quand un politicien coquin se fait est dans cette situation, il a toujours souvent le sourire. Il est sûr de lui, tranquille. Un honnête homme, eh bien non, il se met en colère. Il se sent frappé dans son propre intégrité.
C'est à coup monté pour justement étouffer ou faire oublier ou phagocyter le remaniement ministériel.
Politiquement, on voit quand même que c'est une attaque contre une personne.
C'est une manière de l'exécuter, quoi.
C'est un coup monté d'Elysée. C'était pour faire remonter la cote de M. Macron et c'est raté, je crois.
Oui, mais c'est normal, on est de mauvaise foi quand on a un champion. Et toi aussi, tu es de mauvaise foi, tu as été de mauvaise foi quelquefois. Mais oui, bien sûr.
Oui, enfin bon, moi, j'ai pas à faire la justice.
Donc, non, bien sûr.
Non, mais, oui.
Mais c'est normal, voilà, dès l'instant on est supporter, voilà, on n'est pas très objectif et non, c'est normal de réagir comme ça. Voilà.
Tous les gens qui s'énervent sont dans leur droit.
Voilà, exactement.
C'est
donc,
ça.
Dès l'instant où on est.
Et moi, pour une fois, je vais citer Michel Drucker.
C'est
quand même assez rare.
C'est trop dense.
Je l'ai vu parler de cette histoire.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit,
Michel? Il a dit Michel Drucker, mais il a dit Mélenchon, c'est quand même quelqu'un de très intelligent.
Oui, on est tous d'accord là-dessus.
Il doit être fatigué.
Oui, ben oui.
Et puis, deuxième chose, il a un staff autour de lui qui est assez jeune quand même.
Oui.
L'autre fois, je regardais une interview de Mélenchon, il y avait ce jeune homme-là.
Le Roux.
Oui.
Ah oui, Balébrosse, oui.
Le Roux, c'est pas son nom.
Il est Roux, Adrien Quatennens.
C'est ça, voilà. Adrien. Merci. Et je suis regardé ce jeune homme et je me disais, mais ce... J'avais l'impression qu'il se disait, mais il va arrêter de nous emmerder, celui-là.
Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'effectivement...
Parce qu'il a sûrement un staff très intelligent autour de lui aussi, avec des gens... Il est loin d'être bête, ce garçon.
Sophia Chikirou.
Et là, je le regardais, je me dis, maman, jusqu'où ils vont le supporter, cette espèce de...
Alors, le problème, effectivement, c'est que peut-être que là, aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de chasser un peu le vieux et de prendre la place, quoi. Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, ça ne va pas être simple, parce que pour l'instant, les insoumis, c'est Mélenchon, point barre. C'est lui qui décide.
C'est pas les insoumis, c'est la France insoumise.
Oui, la France insoumise, c'est Mélenchon.
On retrouve un peu, si on se souvient des écarts de Jean-Marie Le Pen, on se disait aussi dans le parti, il y a des mecs quand même un peu peu plus malin que ça.
Mais c'est Jean-Marie.
Ces vieilles blagues, et puis derrière, vrai, tout le monde s'écrasait, et lui, plus il en rajoutait, plus ses supporters. Voilà, plus il s'écrasait, plus ses supporters. Donc,
c'est vrai,
donc je pense que l'outrance de Mélenchon, elle sert son personnage, son parti. Et rien, je vois pas comment ça va s'arrêter. Ça me rappelle Jean-Marie Le Pen, quoi.
Mais moi, je
on aurait transposé le visage de Jean-Marie Le Pen et le visage de Mélenchon, on aurait eu exactement
forte personnalité tous les deux, de toute façon.
Mais moi, je pense qu'il est quand même. Il est malin. Je suis pas d'accord avec la phrase de
Drucker qui dit qu'il est fatigué.
Non, moi, je trouve pas qu'il est fatigué. Bien au contraire. Ça me rappelle une phrase de Charles Pasqua. Lorsque vous êtes acculé par une affaire, vous inventez une affaire dans l'affaire.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a parlé tous les médias ont parlé de l'énervement de Jean-Luc Mélenchon, les images, etc. Et beaucoup moins de la procédure. Donc non, je pense qu'en fait, il est très malin.
Mais enfin, ils ont retrouvé un reste de la buvette de la fête de l'UMA, 12 000 euros.
Tu penses quand il reproche à une journaliste d'avoir un accent qu'il ne comprend pas, c'est organisé, c'est
non,
mis
ça,
en
non.
scène.
Non, ça non. Non, mais
je pense qu'il était énervé.
Mais là, il était énervé.
T'as pas le droit d'être énervé quand t'es...
Mais surtout, son aversion pour les médias, là, elle a, tout le monde l'a vu en plein jour.
Ça a sauté aux yeux de tout le monde.
Mais bon, en tout cas, c'est très drôle parce que sur les réseaux sociaux et même entre les copains maintenant, d'ailleurs, il y en a un qui se reconnaîtra, on dit toujours « ne me touche pas, ma personne est sacrée ».
Oui, c'est ça. C'est devenu mythique.
C'est devenu mythique. Et c'est vraiment très drôle et on va s'en souvenir très longtemps.
Voilà. La République, chez moi. Vous emmerde. Non mais oh, ça suffit maintenant, hein. Revenons à Briançon, les enfants. Revenons avec les migrants. Parlons un peu de Salvini qui pète un câble. Et avant de parler des migrants, j'aimerais qu'on raconte un petit peu ce pavillon du gouverneur squatté.
Bah écoute, tout simplement, je vais t'en parler parce que on sort du conseil communautaire, parce que nous, on n'est pas dans la rue à s'agiter sur les réseaux sociaux, on travaille dans les conseils municipaux communautaires. Mmh. Et lorsqu'on sort du conseil communautaire, il était très tard, on voit donc l'article du Dauphiné Libéré qui nous parle de ce bâtiment squatté, etc. Alors, tous les élus, on tombe un peu des nues, on regarde vite, on lit l'article, on comprend pas trop bien ce qui se passe. Et puis, on apprend à l'intérieur qu'il y avait un projet d'auberge de jeunesse, etc. Alors là, par contre, effectivement, je vais faire mon rôle d'opposition à Gérard Fromm. Moi, élu au conseil municipal, j'étais pas au courant de ce dossier d'auberge de jeunesse. Absolument pas. Le directeur de cabinet Vincent Faubert en a parlé sur les réseaux sociaux en disant mais ceci c'est n'importe quoi, ils étaient au courant. Non, c'est pas vrai. On a voté il y a plus d'un an de ça le principe d'une vente, parce qu'il faut le principe d'une vente voter pour qu'on puisse ensuite mener les négociations au conseil municipal. Et à la base, c'était un hôtel de charme qui était d'ailleurs porté
méfie-toi quand tu dis un hôtel de charme.
C'était des chambres un petit peu de luxe, etc.
ça peut prêter à confusion, tu sais, avec
hôtel de charme.
C'est là qu'on voit qu'il est plus jeune que nous.
Exactement, c'est ça. Tu sais, avec une ampoule rouge à l'entrée. Tu vois ce que je veux dire.
On n'a pas le même âge, mais presque. Mais lui,
on n'a peut-être pas fréquenté les mêmes endroits non plus, excusez-moi.
Un hôtel de charme, lui, c'est sur Airbnb qu'il le trouve.
Voilà, c'est ça. Nous, c'est ailleurs, mais c'est pas grave. Désolé. Non, mais c'est rigolo. Non, c'est très bien. Donc, un hôtel sympa, un peu classe.
Voilà, un petit peu classe, et puis le projet est tombé à l'eau, effectivement, on a été au courant de ça, mais le projet d'hôtel d'auberge de jeunesse, jamais.
D'accord.
Déjà, premier point, d'accord. Mauvais point, parce que c'est régulièrement qu'on apprend dans la presse ou dans la rue des projets qui concernent le conseil municipal.
Ce qui soit dit au passage, n'est pas une mauvaise idée de faire une auberge de jeunesse, non ?
Non, mais j'ai pas dit ça. Non,
d'accord.
Non, c'est juste que nous, on est au membre
du conseil municipal
et qu'on n'est pas au courant. Et ensuite, ce qui se passe par rapport donc à aujourd'hui à ce squat, alors j'entends si est là des politiques et Murgia le fait, oh là là, mais c'est une honte, Briançon, le maire, le laxisme, etc. etc. Oui, sauf que monsieur Murgia, il y a des lois dans le pays. Alors, ok, c'est inadmissible, je partage cet avis, ils sont rentrés de force, etc. Mais aujourd'hui, il suffit pas d'aller gueuler sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a des lois, ils les connaissent mieux que nous. La loi est dure, mais c'est la loi.
Oui.
C'est comme ça.
Duralex, Cedlex.
Duralex, comme les verts.
Eh ben,
non, on est préservatif.
Oh mon Dieu.
Duralex, c'est une marque de verre.
Mais donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas si simple que ça. Et que, au lieu d'avoir un comportement populiste en allant baver sur les réseaux sociaux, on ferait mieux peut-être de se réunir dans une salle en disant bon ben alors qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ils ont squatté, essayer de trouver des solutions pour pas que ça arrive à d'autres bâtiments communaux.
Où s'en est là aujourd'hui?
Eh ben écoute, moi je vais poser une question au prochain conseil municipal et on aura une discussion publique au conseil municipal parce que
c'est toujours squatté ou pas?
Ben oui.
Oui, d'accord.
Mais moi je
oui,
pense oui. qu'au conseil municipal, c'est là qu'on doit débattre oui. de ce sujet et pas dans la rue ou sur les réseaux sociaux oui. uniquement pour attiser un peu ses partisans.
Ouais. Philippe, des squats, il y en a partout.
Enfin, oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais bon.
C'est sûr, c'est mal placé. Voilà. Alors, la vieille ville de
oui, là, ils ont changé les serrures, tout ça, de manière à ne pas être dérangé.
On fera le point.
On fera le point.
On fera le point au conseil municipal.
Alors, je sais que tu avais réagi sur ton Facebook, mon pauvre. Tu as du mal à gérer ton Facebook?
Non, j'ai pas du mal parce que je sais que tu lis et qu'on avait l'émission programmée, alors j'ai laissé faire. Parce que je sais très bien que tu allais en parler.
Tes amis qui te suivent, qui te mettent des choses assez étonnantes, et notamment celui-ci que je ne citerai pas, hein. Je cite uniquement le truc, qui te dit au lieu de ne faire que constater et transmettre les mails qu'on vous adresse, sortez-vous les doigts du cul et allez au turbin si vous voulez être élu, arrêtez de pleurer, allez au combat. Un peu plus bas. Oui. Griska, c'est pas français. Vous êtes vous aussi un produit de l'immigration, n'oubliez pas.
Oui, sauf que je vois pas où est le parallèle entre les squatteurs et les migrants.
Non, mais j'aime bien. Et puis un autre ami qui relève. Il faut se réveiller, les briançonnés, les Français. Je peux vous dire qu'à Turin, ça décampe. Plus possible. Bougeons-nous. Vive l'Italie. Vive les Italiens. Vive Salvini. Au moins, ils se bougent. Chez Jésus, à Clavière. Dehors tous, y compris les passeurs, les associations françaises. Voilà, j'arrêtais là. Mais je te rassure. Certains viennent quand même à ton secours, heureusement, comme celle-ci qui met. C'est un peu comme ça que ça a commencé en Italie, en Allemagne, dans les années 30. Et on connaît la suite. Trois petits points. Voilà. Alors évidemment, il y en avait encore plein derrière. Hein. La pauvre qui a mis ça, elle s'est fait démonter. Donc voilà, effectivement. Donc c'est un peu tendu. C'est quand même un peu tendu à Briançon. Mais je trouve que c'est quand même très tendu.
Tendu est peut-être organisé, non?
Non. Alors je pense. Alors oui, c'est peut-être un peu organisé par quelques-uns. Mais non, Briançon a toujours été une ville très politisée, où le débat s'est toujours enflammé, quels que soient les sujets. Forcément, là, c'est un sujet national, même européen, donc forcément, c'est encore pire. Mais bon, vous refaites une route, la ligne blanche, elle est décalée de 30 cm, ça va hurler dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Je grossis un peu le trait, mais c'est quasiment ça. Briançon a toujours été une ville comme ça, hein. Elle est compliquée, les campagnes sont compliquées, donc moi, ça ne me choque pas.
Alors, Rémi,
par contre, là, sur ce débat, effectivement, mon mur Facebook est un mur d'expression.
Oui.
Alors, parfois, je l'ai toujours dit, modère rarement, sauf quand il y a des insultes racistes. Ça, ouais. je blacklist tout de suite. D'ailleurs, le cher personne qui a dit que Kiska, c'était pas français, etc. Bah, écoutez, premièrement, c'est pas français. Bah oui, effectivement, c'est pas français. Je l'en très clairement pour. Ouais. Pour ce petit commentaire.
Stocklis, c'est pas français non plus.
Parce
que Maslis, c'est pas français non plus.
Je suis produit d'immigration.
Et toi?
Suisse non plus.
Ah ouais. Bah alors.
Ben voilà.
Mais rentrez chez vous, messieurs.
Mais bien
rentrez chez vous, ça suffit maintenant.
Et simplement, juste pour terminer. Pour terminer sur ce sujet, parce qu'il a voulu faire un parallèle entre l'immigration et les squats.
Ouais.
Bon, premièrement, il n'en est rien. Et deuxièmement, j'aimerais juste te dire quelque chose qui me tient à cœur, parce que je le pense vraiment, l'immigration, c'est une chance. Donc, il faut arrêter de la regarder comme un danger, premièrement. Ensuite, sur le squat, effectivement, oui, c'est pas normal qu'il y ait eu ce squat. Mais encore une fois, je l'ai dit, on aura une explication au conseil municipal. Comment ça s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qui est derrière? Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a vendu la mèche de l'appartement qui était libre, etc. etc.
Ouais.
On verra.
On va faire une recherche approfondie. Revenons sur ce sujet, donc, qui est quand même un sujet important depuis quelques mois, voire depuis quelques années maintenant, à Briançon. Mm-hmm. Effectivement, les migrants. Rémi, toi, tu vis ça d'assez près, ton coup de projecteur là-dessus, dis-moi un peu.
Je reviens un peu sur ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'à partir du mois d'avril, quand il y a eu une politisation du problème des migrants et qu'on n'était plus que dans l'humanitaire et l'accueil, suite aux événements qui se sont passés au col du Mont-Genèvre et autres, il y a eu une politisation et moi j'ai senti une fracture dans Briançon entre les pros et les anti. Et les anti ont tout de suite eu des arguments.
Mais ça avait commencé avant. Si tu te rappelles bien, ça avait commencé avant et par la bouche toujours du même.
Un petit peu, mais oui, d'accord, mais c'était pas autant relayé.
C'est qui le même?
C'est Arnaud Murgia. Mais qui surfe systématiquement sur cette peur, sur cette tension.
On va l'inviter, Arnaud Murgia à Briançon. Il va falloir qu'on l'ait dans le coq à l'âne.
Mais c'est dangereux en plus d'attiser comme ça les passions.
Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'aspect humanitaire pur de dire les migrants sont là et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse crever de froid sur l'échelle au Mont-Genève, il en a jamais parlé.
Non, mais il s'en fout.
Il l'évacue, c'est pas un problème humain, c'est un problème politique pour lequel lui il a une solution. Hein, c'est
les renvoyer.
C'est le mur de Berlin. C'est enfin, voilà.
C'est la solution de Salvini, hein, voilà, de les renvoyer chez eux.
Alors, si tu me permets, Salvini, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que je pense aussi que l'Union européenne, elle est complètement fautive. Premièrement, dans la montée de Salvini. Et je voudrais juste apporter mon soutien à tout le peuple italien. Et pour en connaître certains, tu le sais très bien, Thierry, on les a laissés crever, les Italiens, avec les hordes et les hordes de migrants qui ont débarqué sur les plages. Et pas depuis un an. Hein.
Non, ça
fait des années que ça dure.
Quelques années. Hein. Ouais, d'accord.
Lampedusa, etc. Et même avant, les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, qui étaient. Moi, je me rappelle des grillages. Moi, j'étais en terminale, donc ça remonte déjà à il y a maintenant plus de 10 ans, où les grillages étaient complètement. Ployé sous le poids des migrants qui essayaient de passer en Espagne à tout prix. Bon, donc ça fait. L'Europe, en fait, n'a jamais pris ce problème à bras le corps. Et le problème, il est, pour moi, il n'est pas briançonné, il n'est pas haut-alpin, il n'est pas français, il est complètement européen, voire mondial. C'est bien beau de balancer des bombes et d'agiter depuis le Canada, depuis les USA ou depuis tout autre pays, sauf qu'on ne peut pas aller à pied dans ces pays-là, alors qu'en Europe, on devient à pied. Hein, il suffit de faire le tour par la Turquie. Depuis, on a mis les hotspots et puis on a un peu pactisé avec Erdogan pour fermer les frontières. Mais on peut venir à pied, ou en tout cas, on traverse la Méditerranée, ce qui est assez court. J'aimerais bien, moi aussi, que 1 million ou 2 millions de migrants puissent arriver à Washington ou Atlanta.
Ben là, ils vont quand même en avoir quelques-uns qui vont arriver par le Mexique. Hein.
Oui, le Mexique.
Mais là, ça va être quand même un peu problématique. Et d'ailleurs, ils ont dépêché une armée complète de militaires.
C'est pas par la Chine.
Non, ils n'arrivent pas à pied par la Chine.
Non, mais je suis d'accord, mais le problème entre États-Unis et Mexique, il est largement plus compliqué et différent que le problème avec le Moyen-Orient, où, encore une fois, c'est les Américains qui bombardent systématiquement le Moyen-Orient.
Oui,
et peut-être tout ça dans le but de déstabiliser l'Union européenne pour pas qu'elle se construise.
Alors, j'ai cité Michel Drucker.
Oui, c'est quand même pas mal.
Décidément.
Et maintenant, je vais citer Sébastien.
J'ai Patrick Sébastien aussi en citation, si tu veux.
J'ai Eric Ciotti.
Oui. Que dit Eric ?
Je suis élu des Alpes-Maritimes. Dans ce département, 50 000 étrangers ont été reconduits à la frontière en 2017 et 25 000 cette année. Ce travail s'est toujours fait grâce à la parfaite coopération de la police italienne. Plutôt que de pratiquer la diplomatie de l'insulte en stigmatisant la lèpre populiste, Emmanuel Macron devrait faire preuve de pragmatisme. Si l'Italie décidait d'ouvrir ses frontières avec la France, plusieurs centaines de milliers d'étrangers pourraient arriver sur notre sol.
Mais ce qui s'est passé aussi, c'est que quand il les expulse, ils reviennent.
Et bien sûr.
Donc, il parle de quelque chose, il prend le chiffre qui l'intéresse, mais la réalité est autre. Un migrant réexpulsé en Italie, le lendemain, il repasse à Mont-Genève ou Vintimille, ou Vintimille, où il veut. Donc, c'est pas ça le fond du problème. C'est pas d'en expulser.
Oui, mais là,
c'est
on est régler, sur la forme.
C'est ce que tu disais. C'est que l'Union, ensemble, doit faire quelque chose, de dire, voilà, qui on accueille, comment on accueille.
Bah d'ailleurs, Rémi, il y a eu à Briançon une réunion avec, organisée par le Parlement européen. Alors, plutôt l'échiquier gauche du Parlement européen, mais ils sont venus à Briançon et moi j'ai posé une question. Alors, j'ai pu difficilement finir parce que je me suis fait siffler et limite insulter par les hordes de communistes.
Je me souviens, ils t'ont coupé le micro.
Ah, mais ils m'ont coupé le micro complètement, ils m'ont hué. Enfin, bon, bref.
Tu peux lui couper le micro.
Oui, si c'est.
Vas-y un peu, vas-y pas. Non, vas-y.
Non, merci.
Ah, voilà. Je t'ai coupé. Non,
mais enfin bon, si ces gens-là se renseignaient un tout petit peu sur mon histoire familiale, ils verraient bien que je suis absolument pas du tout contre eux et contre l'immigration. Bref, j'ai posé une question toute simple aux députés européens qui étaient venus là pour faire de la politique et pour avancer la campagne européenne. Hein, c'est tout point barre. Mais j'ai quand même voulu poser la question, qu'est-ce que l'Union européenne fait pour contrôler les masses d'argent qui sortent du Parlement de Strasbourg pour aller à l'aide au développement des pays africains? Comment est contrôlé cet argent? Où va cet argent? Et si derrière, il n'y a pas des politiques de résultats où on fait le bilan des aides, et ben on coupe les aides, tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 8 milliards qui sont à destination de l'Europe vers les pays africains, et en particulier en plus...
On en parlait la dernière fois, et je te disais 8 milliards, c'est une goutte d'eau, quoi.
Non, mais attends, c'est une goutte d'eau, mais peut-être pas non plus une goutte d'eau pour les contribuables européens.
Oui, mais c'est sûr. Mais c'est sûr.
Excuse-moi.
Mais sur un budget, c'est vrai que c'est ridicule, quoi. C'est sur un budget...
Je suis d'accord, mais ça a le mérite d'exister.
Tout à fait.
Et au moins, ces 8 milliards qui servent réellement à aider les pays sur place, parce que moi, je veux pas que l'Afrique ne se développe pas. Bien au contraire, si demain l'Afrique se développe, c'est l'Europe qui en profitera. Et peut-être que là aussi, les Américains, les Chinois et les Indiens et les Russes n'ont peut-être pas envie que l'Afrique se développe et se structure parce que ça aidera avant tout l'Union européenne.
Oui.
Mais tu parles de...
C'est de la géopolitique tout ça, mais malheureusement, c'est le fond du problème.
On parle de sommes qu'on ne maîtrise pas bien. Hein. 8 milliards, personne ne sait ce que c'est, ni toi ni moi.
Mais non.
Mais
bah c'est par exemple
on compare
par rapport à d'autres budgets.
C'est 4 fois l'autoroute ou 4 voilà. fois un tunnel du Mont-Genèvre. Voilà,
mais
voilà. Faire simple.
Pour parler avec les migrants, ils te disent, moi, ce que j'ai vu de l'Europe en Afrique nous aider, c'est les ONG. Et les ONG fonctionnent avec 100 fois moins de moyens et c'est la partie visible de l'aide. C'est-à-dire, ce que dit Romain est tout à fait juste, les 8 milliards, il y en a 6 de prélevés là, et voilà, il reste une goutte
d'eau.
Donc voilà, c'est vraiment le fond du problème. Eux, ils voient les ONG qui les aident et ils ne voient pas l'Europe. Voilà. L'Europe, ça passe d'État à État et
insoluble.
Ça ne va jamais. Voilà.
Insoluble, de toute façon. On est quand même... Enfin, je ne voudrais pas être pessimiste, mais on est quand même dans une voie un peu compliquée.
Et puis l'hiver arrive.
Oui, mais c'est toute cette hypocrisie de l'aide, de la dublinisation, qui est une loi inique, de l'expulsion qui ne veut rien dire.
Mais en tout cas, si tu me permets, au moins pour ramener le calme à Briançon, parce que tu as raison Thierry, c'est très tendu quand on en parle, il y a une division dans la population.
Je vois ça sur les réseaux, puisque je ne suis pas de Briançon, donc je vois ça sur les réseaux.
Alors attention, parce que sur les réseaux, tu sais, Briançon, ça comporte 8400 électeurs. Moi, je n'ai pas vu 8400 électeurs qui crachent ou insultent sur les réseaux sociaux. Donc attention, il y a 200-300 excités.
Vous avez vu comment il parle en électeur?
Bah oui, mais
il parle pas en...
Mais oui, mais parce que
non, il parle pas en âme.
Il est prêt là.
C'est un problème politique, donc on rapporte ça aux électeurs. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tu as 200 ou 300 excités qui sont sur Facebook et qui font beaucoup de bruit et qui parfois insultent. Et bon, c'est un petit peu dérangeant. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut entendre. Ils disent pas que des bêtises, il faut entendre, il faut accompagner. Mais encore une fois, je le répète, premièrement, est-ce qu'on laisse ces gens-là crever de froid alors que peut-être dans 10 jours il fait moins 10? Ça, c'est la première des réponses. Bah, pour moi, elle est clairement non. On peut pas laisser quelqu'un mourir de froid à Briançon. Surtout que, voilà, je veux dire, c'est pas le tiers-monde ici. Hein. Donc, on peut un minimum de décence accueillir légèrement, donner à manger, donner une douche chaude. Et derrière, essayer d'apaiser un petit peu ce sentiment. Et de pas en fait attiser sans arrêt la haine, parce que en attisant la haine, effectivement derrière ça peut aller très très loin. J'aimerais pas demain par exemple qu'il y ait des milices d'extrême droite ou quoi que ce soit qui se rassemblent comme dans les années 70 avec les ratonnades, etc. Je veux absolument pas ça à Briançon.
Un mot sur notre président Emmanuel Macron qui est overbooké, là il est presque en burn-out, du coup il a pris 3 jours.
Oui, il est fatigué.
Il a pris 3 jours, alors pareil j'ai vu sur des réseaux sociaux dire et celle qui va se lever pour aller faire la caissière, est-ce qu'elle peut prendre 3 jours pour se reposer?
Oui.
Elle a déjà le week-end. Hein.
Le côté... non mais... c'est le côté un peu toujours négatif que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que j'aimerais un peu avoir ton avis. Ça fait un an et demi maintenant qu'il est en place. Comment tu juges, toi, l'action, peut-être pas du gouvernement, mais au moins l'image que peut donner notre président aujourd'hui?
Alors, je pense premièrement que dans le début de son quinquennat, l'image de la France à l'international s'est relevée. Parce qu'on ne peut pas dire que François Hollande avait forcément bien vendu la France au niveau international. Et moi, je me rappelle par exemple quelque chose qui m'a fortement marqué parce que je suis quand même assez l'actualité militaire, c'était les Mistral. C'est-à-dire, on va pas les Mistral à la Russie et puis finalement, on va les vendre à un régime un peu borderline à l'Égypte. Bon, voilà, ça c'était la risée complète. Donc voilà, ça c'est le point positif. Ensuite, il y a eu quand même quelques réformes qui ont été faites. Alors on peut être plus ou moins d'accord. La réforme de la SNCF, elle a le mérite d'exister. Maintenant, c'est quand même 35 milliards d'euros qui sont réintroduits dans la dette du pays, où tout le monde, tous les contribuables du pays vont payer les 35 milliards de la SNCF. Moi je prends très rarement le train, je vous dis, ça m'embête de payer la dette de la SNCF. Je pense que c'est plutôt aux usagers de payer ce service là bon voilà, il y a quelques points comme ça. Politiquement parlant, Emmanuel Macron, il n'est pas mort, loin de là. Pourquoi ? Parce qu'en face, il n'y a personne. Et tout à l'heure, j'ai dit que LR était inaudible, le PS est inaudible. Et d'ailleurs, c'est une interview d'hier, je crois, ou de ce matin, Nicolas Sarkozy dans Le Point, qui dit tout simplement, ça fait qu'un an et demi qu'il est là, laissez-lui un petit peu de temps et laissez son action arriver pour qu'on puisse juger.
Je ne suis plus dans le combat politique, je sais combien il est difficile de satisfaire tous les ententes nées d'une élection. Je m'abstiendrai donc de le critiquer. J'observe d'ailleurs voilà. qu'en matière de critique, il semble servi et c'est si facile de détruire.
Tu as vu le début de sa phrase ?
Quelle sagesse.
Oui. Oui. Je ne suis plus dans le combat. Je ne suis plus dans le combat politique. Ouais. Et je pense que ce soit à Briançon, à un département, à une région ou même à l'échelle du pays, le combat politique, la politique politicienne, tout le monde s'en fout.
Envie de revenir au pouvoir, question que l'on posait évidemment à notre ancien président. Je savais dès le début que le pouvoir était une parenthèse dont on n'est pas propriétaire, répond Sarkozy, assurant ne pas avoir besoin de pouvoir pour vivre. Il admet avoir commis des erreurs. Il y a des choses que je referais différemment, mais je n'ai aucune amertume, aucun regret.
La parenthèse,
regret.
Il aurait bien aimé qu'elle dure 10 ans quand même, plutôt que 5. Mais bon.
Disons qu'il aurait bien aimé revenir au moment où il s'est représenté. Il aurait aimé revenir au moment où il s'est présenté aussi pour... la primaire où ça c'est et là il a donc là il a lâché le morceau. Bon, n'oublions pas quand même que mine de rien il est quand même sur quelques problèmes sur Big Magnon notamment. Il est mis en examen depuis mars dernier pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale, recel de fonds publics libyens dans le cadre de la campagne présidentielle de 2007. Bien sûr, donc il a quand même quelques casseroles derrière qui arrivent.
Est-ce qu'il va être perquisitionné avec Facebook? J'aimerais bien avoir son appartement.
Allez donc savoir. Bon, en tout cas, lui, visiblement, il veut pas revenir. En revanche, il y a François. Il y a François qui a dit je reviens. Moi, je reviens en 2022. Voilà, il a dit grosso modo que il s'interdisait rien, comme on dit. Nous, on a fait un sondage évidemment avec nos internautes, comme on fait tous les jours, des petites questions comme ça. Bon, ça n'a pas la valeur d'un sondage. Hein. C'est une question qu'on pose sur les internautes qui cliquent oui ou non. Voilà, 90% des internautes ont dit non, mais il faut pas qu'ils reviennent. Hein. Voilà, et je crois que c'est un peu général. D'un autre côté, c'est pas tout de suite. C'est dans 3 ans et demi. On a le temps de voir venir hein, d'ici là. Mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, autour de François Hollande?
J'en pense rien. Voilà. J'en pense rien parce que c'est pas un président pour moi qui a marqué son passage. Enfin, j'ai du mal à voir quelques marqueurs de son passage. Très franchement, donc voilà, je pense qu'il a subi complètement le pouvoir. Et d'ailleurs, s'il a perdu, c'est pleinement de sa faute parce qu'il a subi. Je veux dire, il avait à l'intérieur de son propre gouvernement celui qui lui a piqué sa place. Donc il l'a pas vu arriver. Non, mais il l'a pas vu arriver. Il l'a laissé faire. Et puis quelque part, il a pas vu la modernité qu'incarnait Emmanuel Macron. Donc quand on est au pouvoir, c'est comme quand on est un chef d'entreprise. Quand on voit que le monde autour bouge, et ben reste pas dans ta boutique à attendre que tes comptes s'effritent et puis pour au final avoir une liquidation judiciaire. Essaye de te motiver. De voir qu'est-ce qui peut fonctionner ailleurs pour rebondir.
Alors Philippe, je sais que toi, tu ne portais pas forcément dans ton cœur Nicolas Sarkozy, mais est-ce que tu portais un peu dans ton cœur François Hollande?
Non.
Non plus.
Non.
D'accord, ok. Donc,
tu auras du mal à en trouver quand même.
Je ne sais pas. Rémi?
Ouais, je pense que ce que dit Romain est exact et aujourd'hui il se positionne parce que c'est le vide. C'est le vide absolu.
Il se dit qu'il y a peut-être une porte. D'ailleurs, il n'y a pas voilà, que. Il y a Ségolène qui se positionne aussi, vous avez vu.
Il vend 3000 bouquins, il signe 3000 autographes, puis pour lui, ça doit être.
Voilà.
Ça ressemble à un retour, mais.
Ouais. Je veux dire, ces mecs-là ont un tel ego que tant que ça bouge encore un petit peu, ils y croient, quoi. Ils y croient, ça a été le cas de Sarko. Dans ce que tu citais avant, il se présente, baf après baf. Et puis à un moment donné, il jette l'éponge.
Moi, je suis sûr que Sarkozy, au Trocadéro, lorsqu'il avait fait le 1er mai, vous en souvenez, avant les élections, c'est entre les deux tours.
Fillon.
Non. Entre les deux tours.
Ah, pardon.
Entre les deux tours.
Oui.
Entre les deux
oui.
tours.
Bah oui,
lorsqu'il
avait. Au Trocadéro.
Au Trocadéro, devant une foule immense.
Ah ouais.
Je suis persuadé qu'il était persuadé de gagner le lendemain.
Alors heureusement qu'il le sent persuadé. Je pense que
oui.
Romain, il est persuadé que dans un an et demi, il y est.
Oui. Bah oui, sinon il part
forcément. Bah, sinon tu vas pas.
Bien évidemment, sinon tu vas pas. Mais bah, après, oui. Après, je pense qu'il y a, deux choses. Tu vois, une confidence. Lorsque je me suis présenté en 2011 sur le canton de Briançon-Nord, oui, parce que j'étais aussi là moi en 2011. oui, mais c'est drôle, ça te fait rire. Donc je le dis un peu. Je savais très bien que j'allais pas gagner. J'allais pas gagner à 21 ans, 22 ans le canton de Briançon-Nord qui était aux mains de Gérard Fromm depuis très longtemps. Mmh.
Mais si mais cela dit, t'avais fait
j'avais fait 40%, c'était très bien. Mais si je me présente pas en 2011, est-ce que je suis là en 2014, voilà. etc. Voilà. Donc quand on se présente, il y a deux choses. Soit on est persuadé qu'on va gagner, c'est ce que je suis aujourd'hui pour 2020, soit c'est dans une autre optique plus tard d'essayer de faire un nom, d'avancer des idées, etc.
C'est comme aux Jeux Olympiques. Il y en a qui courent pour gagner, il y en a qui courent pour les prochaines Olympiades.
Voilà. On va tester un peu, on va voir ce que ça va donner.
On est d'accord.
Deux derniers sujets, hein, puisqu'on est presque arrivé au terme de l'émission, avant de se quitter, beaucoup plus léger. Tu fais la cuisine ou pas ?
Oui, j'aime bien.
Ouais. Donc, parce qu'il y a un appel à candidature pour l'émission Un dîner presque parfait.
Bah, c'est très bien. Ouais,
tu es au courant ?
Oui, je suis au courant. Et voilà, je leur laisse.
Voilà, on recherche des candidats dans les Hautes-Alpes. Alors, si vous habitez notamment Serre Chevalier, Philippe Stockley.
Mais presque parfait.
Hein ? Oui, presque parfait. Un dîner presque parfait. Et les alentours, si vous désirez faire découvrir les spécialités montagnardes, alors n'hésitez plus, postulez sur le site shortaudition.com.
Et où tu trouves des trucs comme ça ?
Bah non, bah c'est parce qu'on l'a annoncé tout simplement que voilà, cette émission recherche effectivement ceux qui pourraient faire des spécialités montagnardes. Bon, d'un autre côté, ça va vite torcher quand même. Hein.
Oui.
Les spécialités montagnardes, il n'y en a pas des masses.
On l'a dit tout à l'heure, nous, on n'est pas d'ici, on est des immigrés. Donc ça ne va vraiment pas atteindre la perfection.
Je vais rechercher quelques plats polonais.
Voilà, toi tu vas faire des plats polonais. Moi je vais faire un couscous et lui il va te faire des rostis. Franchement, on n'a aucune chance de gagner le truc. Quoi.
Et moi je pourrais vous faire des moules frites puisque je suis belge.
Eh ben voilà.
Ah, oh, mais il n'y a aucun français, mais c'est terrible.
Non. Je suis d'origine belge, les enfants. C'est terrible. Quand j'ai appris ça, j'ai dit oh là. Terrible. Bon, c'est peut-être pour ça que j'aime bien la bière. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Rémi, Philippe, merci. D'avoir été ici. Romain Grisca, ça avait été avec un grand plaisir quand t'as reçu. Et puis, ben, on se retrouvera très prochainement, puisque tu sais qu'en général, tu viens deux fois par an. Hein,
c'est ça. Hein, tout à fait. Au début et à la fin.
Et à la fin, voilà, absolument. Merci beaucoup. Passez un bon dimanche. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre numéro. Ce sera le 602 du Coq à l'âne. Très bon dimanche et à la semaine prochaine.